Se sentir juif, chaque personne aurait une réponse différente, et je pense que c'est ça aussi qui est très important.
Par les fêtes, par les rassemblements familiaux.
Une histoire juive.
Comment la France a-t-elle été façonnée par la rencontre de cultures minoritaires, dont les communautés juives?
Comment se rappeler de ce qui a été silencé?
C'est quand même dans mon sang parce que mon père est juif.
Pratiquant, traditionnaliste.
Le judaïsme, c'est une religion qui est peu connue.
Bonsoir et bienvenue pour cette quatrième émission d'une série de 5 conversations radiophoniques proposées par le Musée Dauphinois, musée du département de l'Isère, et enregistrées avec les moyens techniques de Radio Campus Grenoble. Cette série de rencontres radiophoniques est proposée dans le cadre de l'exposition du Musée Dauphinois inaugurée le 27 novembre 2005, une histoire juive, 2000 ans d'histoire entre Rhône et Alpes. Comme à son habitude, le musée propose de traverser la diversité culturelle des populations à travers les siècles. Ici, la présence juive, particulièrement méconnue et pourtant très ancienne. Ce soir, notre conversation radiophonique s'articule autour de la notion de dialogue philosophique, ou comment une exposition peut être le terrain fertile d'une réflexion philosophique, et pourquoi peut-être tout particulièrement une exposition sur les cultures juives. Pour discuter de tout cela, nous sommes en compagnie de Johanna Vilaka. Bonsoir. Vous êtes titulaire d'un master en philosophie et d'un diplôme universitaire en pratique du dialogue philosophique dans la cité. Vous intervenez entre autres dans les différents musées départementaux et tout particulièrement ici au musée Dauphinois à l'occasion de l'exposition « Une histoire juive » dans le cadre de dialogues à visée philosophique. Bonsoir donc. À côté de vous, plutôt en face de vous, Franck Philippot. Bonsoir, vous êtes conservateur du patrimoine au musée au Dauphinois depuis 2013 et on vous doit le commissariat de nombreuses expositions traitant de sujets assez variés, allant de la pratique du vélo avec un amour du vélo à la fascination pour l'Égypte avec Égyptomania, et vous êtes donc le commissaire de l'exposition qui retient ce soir notre attention. Une histoire juive, 2000 ans d'histoire entre Rhône et Alpes. Alors Franck Philippot, si vous le voulez bien, on va démarrer avec vous. Je souhaiterais un petit peu revenir dans un premier temps sur le projet de cette exposition. Il semble que vous ayez souhaité, dès le début de ce projet, que le dialogue soit une composante de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, quoi?
Bonsoir Benjamin. On est ici au musée Dauphinois, on est dans un musée qui appartient à la famille des musées de société, comme l'on dit. Et donc notre approche principale, notre discipline principale est la sociologie, et on s'intéresse à tous ceux qui habitent le territoire. Et pour parler des gens, pour le dire très simplement, il faut qu'on parle avec eux et qu'eux-mêmes s'expriment. Donc en réalité, la question de la conversation... du témoignage, des confidences, je pourrais dire aussi, de l'intime, du partage d'un vécu, etc. Enfin, ça fait partie de notre façon de travailler. On parle de démarches participatives quand on parle des musées. Et donc, on est bien dans cette volonté d'engager un dialogue pour parler notamment, je reviendrai peut-être après sur cette question-là, sur le contemporain, vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui, en 2026, comment on peut parler des cultures juives aujourd'hui.
Et dans l'exposition, vous donnez la parole à des personnes très variées, allant de scientifiques à des grenoblois, des acteurs de la société civile, etc. Cette volonté de donner la parole à une diversité de populations, quoi.
Oui, et c'est certainement un point, on en discutera sur, je pense, la mise en débat que j'ai découvert et apprécié en préparant cette exposition sur les formes de pensée juive, et de peut-être une philosophie juive, c'est de débattre et d'éclairer par plein de facettes possibles, d'avoir des opinions ou des points de vue différents qui parfois se contredisent, mais pourquoi pas. Donc les scientifiques sont présents parce que ils ont cette expertise d'une histoire. On dit, pour les historiens, si on ne fait pas d'histoire, On se raconte des histoires et ça finit par faire des histoires. Donc il faut bien les solliciter un petit peu, ces historiens. Et les archéologues en particulier qui ont fouillé et qui sont eux en dialogue avec les archives de la Terre. Et puis bien sûr, toutes les associations qui portent les différentes facettes des cultures juives sur Grenoble depuis plus de 50 ans et aussi des personnes qui sont en dehors des associations parce que la sociabilité évolue aussi dans nos sociétés, donc il y a des associations mais il y a d'autres voies de sociabilité et on a rencontré plein de jeunes en particulier avec qui on est rentré en dialogue.
Oui, et ce dialogue, ces témoignages qu'on peut entendre dans un espace qui évoque un peu un salon, un intérieur. Et il y a un autre espace aussi dans l'exposition dans lequel on se trouve là aujourd'hui, qui est l'espace pédagogique, et qui est un espace dans lequel on trouve aussi un certain nombre d'ouvrages qui permettent d'ouvrir le débat, et dans lequel on se trouve pour cette émission qui, je le rappelle, s'appelle Conversation radiophonique, donc qui est aussi un espace, a priori, d'échange et de discussion. Dans quelle mesure, pour vous, cette notion de dialogue, elle était tout particulièrement importante pour cette exposition, même si vous avez un petit peu donné des pistes de réponse là, sur une exposition concernant l'histoire de la présence juive sur le territoire rhône-alpin.
Sur ce territoire, je pense que on pourrait avoir une approche aussi d'échange sur le territoire national. Il y a quelques particularités, mais qu'on retrouverait bien sûr par ailleurs dans le territoire national. Ce qui nous importait aussi, c'était d'ancrer sur un territoire des différentes populations à travers le temps long, comment elles ont été présentes, comment elles ont coexisté avec d'autres cultures plus dominantes, disons, dans l'histoire longue, depuis plus de 2000 ans. Et de montrer aussi des réalités concrètes, tangibles, que l'on peut voir tout au long du Rhône, parce qu'on a pris plutôt le fleuve, qui est un espace de circulation, pour montrer que l'histoire est marquée autour du Comtat vénitien, d'Avignon, etc. Et puis montrer aussi que cette approche sur ce territoire reste encore à mener, à écrire, une forme d'écriture encore à mener, en particulier sur Grenoble, où on a quelques informations historiques, mais très peu archéologiques ou de vestiges.
Très bien, merci pour toutes ces précisions. Alors parmi les dispositifs autour de l'exposition, il y a eu la volonté d'inviter Johanna Vilaka pour mener parfois des visites en complémentarité, qui sont des visites qui proposent des dialogues philosophiques. Alors, Johanna Vilaka, je me tourne vers vous. Et comme je le disais en vous présentant, vous êtes titulaire d'un DU en pratique du dialogue philosophique dans la cité. Alors, c'est peut-être pas évident pour tout le monde. De quoi s'agit-il ?
Déjà, la philosophie, je ne sais pas à quel point c'est une discipline qui est très bien connue, parce qu'en France, c'est enseigné qu'en classe de terminale. Et les enseignants qui ont voulu transmettre ce DU à Grenoble et plus largement tous les chercheurs, toutes les personnes qui s'investissent dans la diffusion des dialogues philosophiques en France et à l'international, parce que ça se fait aussi beaucoup aux États-Unis, toutes les personnes qui promeuvent ces ateliers de discussion, en gros, veulent démocratiser l'accès à la philosophie pour que ce soit plus une discipline qui soit seulement élitiste et qui se transmette seulement dans les universités ou en terminale à des personnes, les personnes qui y sont, uniquement celles-ci, et seulement par l'écrit et de manière individuelle. Et donc l'idée de ces dialogues philosophiques-là, c'est de faire de la philosophie une pratique vivante, une pratique qui se fait à l'oral, qui se fait collectivement, et qui se fait concrète, qui se fait sensible, qui se fait en lien avec le réel et pas déconnecté, comme on pourrait le penser, du philosophe isolé dans sa bibliothèque, etc. Et donc parmi les penseurs qui promeuvent cette philosophie-là beaucoup plus démocratique, on en a des très anciens, on a Épicure, on a Diderot, on a Montaigne, et plus récemment aux États-Unis, on a Lippmann et Sharpe, qui sont deux personnes qui ont beaucoup promu ces dialogues-là, et qui reliaient beaucoup ces dialogues à une forme de promotion de la démocratie, parce qu'ils s'opposaient à cette idée-là que la démocratie, ce serait mettre un bulletin de vote de manière très ponctuelle dans une urne, et que pour eux, c'est vraiment un dialogue qui se fait... On a de démocratie qu'à condition qu'on sache faire un dialogue démocratique, qu'on sache échanger les uns avec les autres, et qu'on sache
opposer des opinions. Et en fait, la philosophie, c'est vraiment ça, c'est l'idée qu'il n'y a pas une opinion qui soit réelle et qu'il n'y a pas non plus, c'est souvent une idée qu'on a de la philosophie, toutes les opinions se valent. Donc en fait, ça permettrait d'échapper à la fois au dogmatisme et à la fois au relativisme de la pensée. Et c'est quelque chose de très précieux en démocratie, c'est d'être conscient de la vulnérabilité de nos propres opinions, de la pluralité des opinions qui peuvent être vraies. Et donc c'est l'idée qu'on va confronter toutes ces idées-là, donc grâce à la philosophie. Ça peut servir un intérêt démocratique et ça a été pensé par ces personnes qui promeuvent le dialogue démocratique. Il y a même des personnes qui animent leurs ateliers de discussion philosophie en mettant un maître de séance, une secrétaire, enfin qui recrée en fait des contextes d'assemblée politique dans ces dialogues démocratiques-là. Et il y a aussi tout simplement une reconnaissance des questionnements qui nous habitent, qui sont des questionnements existentiels, profonds. Si vous avez des enfants, ils vont poser peut-être parfois des questions à laquelle on ne sait pas répondre. Et c'est des questions sur lesquelles on ne prend pas le temps de s'arrêter dans le quotidien, parce qu'on est occupé à plein de choses. Et c'est des questions qui pourtant nous traversent tous, des questions qui sont universelles, qui se bousculent, qui sont difficiles. Et donc l'idée, c'est de créer ce que Hannah Arendt appelle des oasis de pensée, des moments où on peut s'arrêter et se questionner sur ces questions qui sont difficiles. Et Hannah Arendt, justement, elle a été une grande promotrice de la philosophie parce que donc c'était une philosophe juive qui a constaté que dans les années 30, en fait, il y a eu des personnes très cultivées qui avaient une très grande connaissance théorique, qui avaient lu de la grande littérature et qui pour autant se posaient aucune question sur la portée, j'exagère, mais qui se posaient peu de questions sur la portée morale de leurs actions. Et donc elle fait une distinction entre l'intelligence et la pensée. Et en fait, il ne s'agirait pas d'éduquer nos enfants en leur transmettant plein de connaissances, mais il s'agirait surtout de leur donner un esprit critique qui permettrait de développer le jugement. Et donc et c'est cette pensée critique-là qui est vraiment précieuse. Et c'est tout ça en fait qu'on apprend dans le DU à Grenoble qui s'appelle Philopolis.
Très bien. Et vous-même, alors du coup, où est-ce que vous intervenez? Où est-ce que vous animez ce type de dialogue philosophique? Enfin, sur quel type de terrain, mis à part l'exposition là?
Donc ici au musée de la Résistance et de la Déportation, et aussi au musée dauphinois. Mais il y a d'autres musées qui ont aussi fait ce choix-là de médiation, d'inviter des animateurs en dialogue philosophique. Et sinon, ça se fait également beaucoup, évidemment, dans le cadre scolaire, dans l'idée qu'on va faire des ateliers philo avec des élèves avant la terminale et hors du seul cadre obligatoire dans les programmes scolaires. Donc moi, c'est surtout ça que je connais. Mais ça se fait aussi dans d'autres endroits. Après, c'est toujours dur de trouver un public... qui soit pas institutionnel. Et donc le musée et l'école, ça permet la facilité de l'accès au public parce que l'institution est là pour... nous accueillir et créer un lien avec nous.
Oui, bien sûr. Et du coup, comment avez-vous imaginé les interventions ici dans l'exposition Une histoire juive? Est-ce que vous appuyez sur certains éléments qui se trouvent présents dans l'exposition pour animer une discussion?
Ici, on avait pensé deux solutions. Enfin, au musée dauphinois, on en a surtout choisi une qui est de faire une visite qui soit déambulatoire, où on pourrait se promener dans l'exposition, s'arrêter sur des éléments qui vont retenir l'attention du public et sur lesquels on peut initier un débat philosophique. Mais ça peut aussi être des moments qui se font avant ou après l'exposition, au choix. Mais le fonctionnement déambulatoire était intéressant et on l'a retenu. Et on peut s'arrêter sur des objets, par exemple... Il y a la lampe d'Orgon, qui est une très ancienne lampe, qui atteste de présence juive sur le territoire très ancienne. Et ça peut amener à plein de questionnements, par exemple les questionnements sur comment on fait l'histoire, qu'est-ce qu'on met dans l'histoire, qu'est-ce qu'on va retenir, qu'est-ce qu'on va oublier. Et en fait, cette lampe, sauf si on est très pointu, on n'a pas conscience qu'il y a des présences juives sur le territoire aussi ancienne, et donc ça nous dit toute notre ignorance et toute la manière dont on nous a transmis certaines choses et pas d'autres. Et ça amène donc plein de questions philosophiques sur l'histoire. C'est un axe qu'on peut avoir. On peut aussi avoir d'autres axes. Peut-être qu'on en parlera après, mais il y a la main de lecture qui est un objet... on pourra revenir dessus, mais en tout cas, ça incite à prendre une distance avec le texte. Ça peut poser aussi des questions philosophiques sur le rapport au texte sacré, à la croyance, à la pensée, tout ça.
Bien. Et du coup, dans le cadre de ces dialogues, vous appuyez aussi bien sur les objets qui se trouvent au sein de l'exposition que sur... vous questionnez enfin, les objets, mais aussi la misographie elle-même, je crois. Vous interrogez aussi un peu le rôle du musée, finalement.
Oui, mais en fait, ça a été un peu abordé aussi en début, à l'ouverture de cette émission-là. C'était comme la philosophie souffre de plein de préjugés, que ce serait une discipline inaccessible qu'on fait dans les bibliothèques quand on est un grand universitaire. Bah, le musée aussi, on peut avoir une image du musée qui soit un endroit peut-être inaccessible, peut-être qui présente que des œuvres très anciennes, peut-être d'une culture en tout cas qui soit pas proche du public et des populations locales. J'ai l'impression, mais en fait ça a déjà été un petit peu dit, vous disiez que le musée dauphinois, c'est un musée de sociologie et contemporain, et je trouve ça intéressant et peu courant. Et donc, comment ça se définit en fait un musée de sociologie et qui se fait contemporain et proche de sa population?
Ce serait une question pour Franck, je crois.
Alors... en fait, dans cette perspective vraiment historique sur le temps long, ça permettait de mettre ses bases aussi sur ces présences des cultures juives, qui est méconnue. Donc ça pose aussi déjà la question, ce que vous disiez à l'instant, c'est comment c'est enseigné aujourd'hui. Certes, on présente le temps long, mais on questionne cette question de l'enseignement. Les scientifiques connaissent cette histoire sur le temps long. Mais à l'école, comment on aborde les cultures juives ? Est-ce que ça se résume, au meilleur des cas, à la Seconde Guerre mondiale, à l'affaire Dreyfus, aux migrations séfarades au moment des décolonisations ? Mais l'actualité de la recherche aussi cherche à montrer d'autres facettes de cette histoire. Donc on est aussi dans le contemporain. Donc c'est montrer que l'histoire est une discipline, évolue dans son approche. Donc c'était important pour nous de montrer ce contemporain-là. Et ensuite, ça permet de mieux contextualiser et de certainement mieux aborder, c'était l'intention de l'exposition, de se dire, mais être juif aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? On a pu voir qu'il y a différentes formes de vivre sa judaïté contrainte, plutôt dans le passé, avec différentes ostracisations, même si on a essayé de ne pas accentuer cet aspect-là, hein, montrer aussi qu'il y avait des temps communs de vie, et aujourd'hui montrer comment on vit son judaïsme aujourd'hui, après l'instant majeur qui est 1791, où les Juifs deviennent enfin citoyens. Donc ça aussi, hein, ça pose cette question de, aujourd'hui on est bien sûr citoyens. Les Juifs ne l'ont pas toujours été, il fallait le rappeler. Et qu'est-ce que cela signifie quand on fait différents types de considérations de personnes qui habitent sur un même territoire ? Donc, cette partie historique, cette partie sur la recherche contemporaine annonce l'expression des judéités contemporaines qu'on a été enquêtés, presque comme des journalistes d'ailleurs. Il y a une partie vraiment de journalisme qu'on a souhaité spécifiquement sur cette exposition, en travaillant avec Clémentine Métainier, qui nous amène aussi sur cette autre question du contemporain, de l'actualité et d'une distance moindre, rétrécie par rapport à ce que peut faire habituellement un musée avec la distance de l'histoire, la distance, mais être un peu plus au cœur de l'action et des confrontations d'idées.
Bien. Alors, si vous avez souhaité, par ailleurs, mener ces dialogues à visée philosophique au sein de l'exposition Une histoire juive, c'est peut-être que le judaïsme lui-même a une grande tradition de commentaires des textes sacrés, qui mène finalement à des formes de réflexion philosophique. Alors, dans quelle mesure, alors je pose la question un peu à tous les deux, avec vos compétences diverses, dans quelle mesure le judaïsme est aussi une forme de philosophie ? Alors, qui se lance ?
Je peux peut-être juste témoigner, moi, sur l'expérience personnelle que j'ai eue en conduisant cette exposition. Je n'avais pas forcément... d'a priori ou de représentation. Mais il y a bien sûr cette question qui est là, comment on se représente, comment on crée un imaginaire. Voilà. Ce qui apparaît très très vite, c'est les incessantes questions qu'on se pose, enfin, c'est ce que j'ai ressenti quand on est juif. Ça a été une sorte, pour moi, de connivence que j'ai eue avec ma façon d'aborder les différents sujets que je peux aborder, et notamment ici, professionnellement, au Musée Dauphinois. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément à donner une réponse. On pose des questions et on complexifie. On complexifie les approches. Et je pense que, de ce que j'ai perçu, j'ai pas fait mon Talmud Torah, donc je suis très modeste sur ma réponse. C'est-à-dire qu'il y a des questionnements permanents, des études permanentes et un regard critique permanent. Donc ça, c'est essentiel parce que ça permet de prendre du recul par rapport à soi, de la critique par rapport à soi, par rapport au monde, et engager à écouter beaucoup l'autre et éventuellement à se confronter. Pas être d'accord, la blague juive traditionnelle qui m'a beaucoup été répétée par des témoins, c'est deux juifs, trois opinions. Donc je pense que ça résume bien une forme simple, par l'humour d'ailleurs, certainement d'une approche philosophique, ne jamais cesser de se questionner, ne pas simplifier.
Oui, effectivement, il y a un témoignage d'ailleurs de Jean-Luc Medina là, qui est au sein de l'exposition, qui est président du Centre de culture juive à Grenoble, et qui lui-même n'est pas pratiquant, et dit dans ce témoignage que ce qui caractérise pour lui le judaïsme, c'est le questionnement incessant sur soi, et même sur l'existence de Dieu. Est-ce que Johanna, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Toute religion, comme toute philosophie, répond à des questions qui sont propres à l'étonnement devant le monde, un monde qu'on comprend pas forcément et qui pose énormément de questions. Et donc, c'est pour ça qu'on va créer les mythes, les contes, les histoires, les arts, mais aussi les religions et les philosophies, parce que ça va servir à répondre à toutes ces questions-là. Et entre eux, évidemment, il y a eu des personnes et juives et très inspirées par les philosophies grecques et anciennes. Donc, forcément, leur pensée a été à la croisement de ces deux modèles d'explication du monde. Depuis l'Antiquité, il y avait en particulier Alexandrie, qui était donc un centre de la pensée et de la culture ancienne, où il y avait des penseurs comme par exemple Aristobule d'Alexandrie ou d'autres qui ont en fait été inspirés à la fois par leur foi et par des philosophes grecs et qui se sont posés plein de questions pour pouvoir allier les deux. Donc la question pour eux, en fait, on ne sait pas si tout simplement c'est des personnes qui sont inspirées par ces deux modes par ces deux cultures qui mêlaient les deux dans leur pensée, ou si c'était aussi une manière peut-être de s'intégrer auprès des personnes non juives en reconnaissant aussi la philosophie grecque comme des matières à penser le monde. Donc c'est sûrement un subtil mélange des deux. Ou c'était tout simplement des personnes qui voulaient aussi qui voyaient des ponts et des croisements, en tout cas. Donc on a Philon d'Alexandrie, par exemple, qui, paradoxalement, a surtout été retenu dans la croyance chrétienne, mais qui était à la base un penseur juif, qui a tenté de faire des ponts, en fait, entre donc les textes sacrés et la tradition orale, d'ailleurs, et la philosophie grecque. Et donc ce qu'il a fait, c'était surtout essayer de voir tous les codes comme des allégories. Par exemple, il était contre l'idée de penser Dieu comme une personne avec une bouche, des mains, un corps, mais il voulait vraiment qu'on allégorise tout ça. Et donc l'idée, c'était de sortir la religion d'un simple code et d'en faire une sagesse qui soit universelle, hein, qui soit pas juste pour les juifs, mais pour le monde entier, en fait, un peu comme la philosophie, et qui s'adresse à tout le monde. Et donc c'était un grand platonicien, il était inspiré par la pensée platonicienne et par le stoïcisme. Et donc en fait, tout ce qui est par exemple les règlements alimentaires, etc., il va les interpréter comme des manières de s'autodiscipliner, de faire fonctionner son esprit au-delà de ses passions. Et c'est très inspiré aussi du stoïcisme et de Platon, l'idée qu'il faut se réguler, avoir une discipline morale. Et donc en fait, tout ce qu'on peut voir comme des règles, lui, il les voit comme les fondements d'une sagesse qui soit universelle et qui dépasse le simple peuple juif. Et on considère donc ces penseurs-là d'Alexandrie comme ceux qui ont posé les jalons pour ensuite tout ce qui est la philosophie juive médiévale, qui s'ancre surtout dans le Moyen-Orient, le Proche-Orient et l'Espagne musulmane, Donc on avait, c'était donc dans ces régions arabes-là et musulmanes, donc inspirées aussi par la philosophie musulmane de, par exemple, Avincenne ou Averroès, des penseurs donc juifs qui se posent aussi la question, un peu les mêmes questions, de allier la philosophie grecque avec leur religion, parce que dans ces régions-là, on a aussi une grande transmission de la philosophie grecque, donc de Platon, Aristote, surtout. Et donc on a le plus connu, celui qu'on a le plus retenu, c'est Maïmonide, qui en fait qui voit ces deux grands modèles d'explication du monde, que sont la philosophie et sa foi, comme en fait c'est un grand penseur de la médiation. Il voit ces deux modèles d'explication comme complémentaires, l'un ne s'opposant pas nécessairement à l'autre, même si évidemment il y a des grandes différences. Il voit une grande complémentarité. Et donc Maïmonide, qui écrivait en arabe, a été traduit en hébreu et son texte a voyagé jusque dans la partie chrétienne. Et ça a été une onde de choc pour le reste de l'Europe, quand c'est arrivé en Europe. Et voilà, après c'est un très grand sujet, les liens entre religion et pensée, et on peut en parler 6 heures, mais voilà. Et donc il y a eu plein de penseurs juifs qui ont essayé de faire des ponts et de voir une complémentarité du coup entre leur religion et la philosophie. Et on a un penseur qu'on a du mal à appeler penseur juif tellement il était en rupture avec sa communauté, c'était Spinoza, qui lui est donc issu d'une famille juive qui vivait au Portugal, qui a dû partir à Amsterdam parce que les juifs ont été forcés à partir, et donc il s'est installé à Amsterdam et il était de ceux-là qui n'étaient pas acceptés forcément parmi les chrétiens sur place et qui étaient loin aussi de leur communauté, etc. Et donc lui, c'est un grand penseur de... lui, il n'était plus du tout dans cette tradition-là de dire que en fait, les deux sont conciliables. Et il voyait, lui, dans ces idées-là de révélation, de foi, une forme de... Enfin, il mettait dans une raison, il liait ça à une soumission sociale et politique. Et donc, c'est ce qu'on dit, que c'est un grand penseur de la critique des textes et de l'Église. Voilà. Mais c'est un très grand sujet.
Oui, effectivement, assez vaste. Merci pour ce résumé. Assez clair. Et justement, par rapport à la distance critique, il y a un objet que vous aviez évoqué tout à l'heure, Johanna, mais peut-être Franck peut revenir un peu dessus dans l'exposition, qui est la main de lecture, qui est un objet qui permet aussi, qui symbolise une forme de distance critique à l'égard du texte sacré.
Oui, alors cette main de lecture, ce pointeur est utilisé, s'appelle Ayad, YAD. Utilisé par le rabbin au moment de l'office, en particulier pour pointer le texte sacré, ne pas le toucher. Le texte est sur le Sefer Torah, donc la Torah en rouleau. Et ce yad qui est présenté au musée, elle nous a été prêté par le musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Et lors des rencontres et des conversations que j'ai pu avoir avec différentes personnalités présentes notamment dans les synagogues, m'ont pratiquement systématiquement dit que c'était la distance qu'il fallait avoir avec les plus grands textes, quel que soit le texte. Donc cette distance physique qui fait une 15-20 cm à peu près, et cette distance de réflexion et de commentaire. Johanna a parlé de Maïmonide, on pourrait parler aussi de Rashi, à Troyes, on est au 11e siècle, qui participera aussi à ces commentaires. Et même physiquement, c'est intéressant, sur les textes sacrés, je pense plutôt au Talmud, où on a l'élément central qui est le texte, qu'on va étudier, et l'ensemble des commentaires multiples qui vont se confronter pour avoir cette distance que l'on doit avoir par rapport au texte.
Une distance qui permet peut-être d'échapper au dogmatisme dont Johanna parlait tout à l'heure dans le cadre des discussions à visée philosophique. Et c'est vrai que c'est effectivement ce qui transparaît assez bien au fil de l'exposition, et ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est la diversité des manières d'être juive et des relations qu'on peut entretenir avec sa propre judaïté. Je propose d'ouvrir un petit peu le débat au public. Est-ce que parmi le public, il y aurait des questions à l'attention de l'un ou l'autre de nos intervenants?
Je voulais juste poser une question à la mademoiselle. Vous pensez réellement qu'on peut faire descendre la philosophie sans aucune connaissance des philosophes? Est-ce qu'on ne va pas avoir des conversations à bâton rompu de niveau un peu bas, excusez-moi? Vous pensez réellement qu'on peut faire une discussion philosophique sans aucune connaissance des philosophes?
Mais je comprends complètement votre question. Et j'ai eu très peur, je pense, des mêmes choses que vous, un peu. Je ne savais pas trop où iraient les discussions, parce que, les premières fois que j'essayais, sur des sujets qui portent beaucoup de préjugés, parce qu'ils sont mal connus, parce que l'histoire ne nous a pas été transmise aussi. Et je ne sais pas si c'est un peu une crainte, en fait, de, quand vous disiez bâton rompu, une crainte que ce soit des discussions un peu stériles, qui ne volent pas forcément haut, voire qui sont violentes. C'est l'idée, ouais. Bah, j'avais aussi peur de ça. Et mon expérience va plutôt dans quelque chose de rassurant. J'ai eu un public assez jeune, c'était plutôt des scolaires. Et en fait, ça dépend aussi peut-être de comment on intervient dans la discussion, de comment on mène la parole, comment enfin peut-être que le cadre aide aussi. Mais j'ai pas eu de d'affirmation vraiment choquante ou de. Et c'est aussi en écho, même si le programme est imparfait, c'est aussi en écho avec le programme d'histoire qu'ils ont fait, pour les scolaires en tout cas. Et donc ils avaient quand même des éléments. Ils n'avaient pas étudié les philosophes, mais ils avaient quand même des éléments d'histoire. Donc ils ne partaient pas de rien. Mais c'est sûr que je pense que dans ces espaces de dialogue, il y a tout en fait qui peut arriver. Et c'est peut-être aussi bien d'ouvrir des espaces où ces choses peuvent arriver, parce qu'on peut aussi contredire tout ce qui sort. Et en fait... une opinion va être en opposition avec d'autres. Et en fait, moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer de les ouvrir, ces espaces. Et c'est rare qu'on ait une assemblée qui soit unanimement d'accord pour dire des choses terribles. En tout cas, de mon expérience, ça n'arrive pas. Mais le jour où ça arrivera, oui, je me demanderai comment ça se fait et comment je fais en sorte que ça n'arrive plus, c'est sûr.
Je peux peut-être compléter... ces séances de dialogue, elles sont en présence de philosophes, de médiateurs. Donc ça, c'est important. Il y a une médiation humaine qui est présente. Quand on ouvre une exposition, alors parfois je guide, parfois il y a des médiatrices aussi qui sont présentes. Mais c'est aussi une des difficultés que nous, on peut recevoir ou ressentir en tout cas. Quand on ouvre une exposition, c'est comment c'est reçu et qu'est-ce que ça induit comme réaction.
Les gens qui viennent à l'exposition et ont fait l'effort de venir.
Bien sûr.
Donc ça, c'est déjà un premier pas. Tandis que là, non. Là, on ne leur impose pas, mais c'est pas fortuit, mais presque. C'est pas pareil.
C'est pas pareil, mais on tient tout de même un discours. Le titre de l'exposition, c'est « Une histoire juive ». On ne prétend pas faire l'histoire juive avec un grand L. Des désaccords probablement peuvent s'exprimer. Pour l'instant, on n'a pas de soucis particuliers. On sait que le public de musée aussi est un public souvent averti. Hein. Mais parmi les scolaires qui viennent ici, comment c'est perçu, comment c'est contenu, peut-être après le passage d'une classe, ça, c'est des grandes questions qui reste en suspens, et je pense que ces formes d'animation, de médiation, de dialogue, de confrontation sont essentielles. Hein. Il faudrait pouvoir les multiplier plus, oui.
J'ai tendance à penser que ne pas ouvrir ces espaces-là serait prendre le risque que les personnes restent dans un entre-soi et qu'on ait les opinions de notre entourage et qu'en fait on les confronte jamais aux opinions d'autres personnes. Et c'est là que ces idées-là restent peut-être vivantes plus longtemps. C'est ce que je me dis.
Et est-ce que c'est plus facile d'animer un dialogue philosophique avec des gens qui n'ont peut-être aucune connaissance plutôt que ceux qui en ont un peu et qui se crispent dessus? Enfin, je caricature un peu, mais je sais pas, par rapport à votre expérience.
C'est dur à dire. Ce qui est sûr, c'est que un grand problème dans les dialogues philosophiques sont les personnes qui ont des certitudes qui ne sont pas prêtes à remettre en question. Ça, c'est l'enfer. C'est l'opposé de la philosophie. Donc oui, et peut-être que le fait d'avoir... Je sais pas, en fait. Peut-être si on... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on a de certitude, et moins on est apte à philosopher. Et donc... Et en général, j'ai tendance à croire que plus on est connaisseur, plus en doute. Donc, je dirais qu'une personne qui a peut-être beaucoup... Enfin, c'est pas une loi universelle, mais je dirais que peut-être qu'une personne qui a beaucoup de connaissances voit l'ampleur de son ignorance et donc a peut-être moins de certitude. Mais bon, ça se contredit aussi sur le terrain. Enfin, tout existe. En tout cas, les gens qui écoutent peu les autres et qui ne remettent pas beaucoup leurs idées en question, c'est pas facile avec ces personnes-là, oui.
On imagine. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public ?
Je me demandais ce que les enfants savent. Enfin, c'est des élèves de, j'imagine, de 10-12 ans qui viennent.
Moi, j'ai eu des troisièmes, donc c'est 14 ans.
Ouais. On vit quand même dans un pays laïque où on n'est pas censé tellement parler de religion, et je me demandais ce qu'ils pouvaient savoir. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'ils vous ont demandé ou qu'ils ont affirmé peut-être, mais surtout, qu'est-ce qu'ils ont, les questions qui se posaient.
Eh bien, c'est très intéressant parce qu'ils savent ce qu'ils voient en cours, je pense. Donc très peu, en fait, sur les cultures juives. Mais ce qu'ils connaissent et ce dont ils parlaient, c'était essentiellement les années 30 et la Seconde Guerre mondiale. Et exactement, et la Shoah. Et donc, un petit peu l'affaire Dreyfus aussi, ouais. Et ça pose plein de questions sur, en fait, qu'est-ce qu'on oublie de transmettre, pourquoi on transmet seulement cette partie-là. Évidemment qu'elle est importante, mais je pense d'ailleurs que c'est des réflexions sur lesquelles le musée s'est penché. C'est une histoire qui est victimaire, en fait, qui est importante, mais qui n'est pas... par exemple, ils ne connaissent pas les fêtes. Enfin, en tout cas, ça ne sortait pas dans les discussions. Donc c'était surtout ça. Dans les discussions, on a surtout parlé de fascisme, de tout ça. Mais ça peut être une question aussi que le musée s'était posé sur... sur qu'est-ce qu'on présente en fait et qu'est-ce qu'on...
Oui, en effet, enfin, c'est peut-être une raison qui explique la difficulté que l'on a à rencontrer les scolaires. Nous avons accueilli des enseignants, plutôt des enseignants d'histoire, mais ça aurait pu être des profs de philo ou de bien d'autres domaines d'ailleurs. On sait qu'on est en dehors du programme scolaire. Donc sur une exposition comme une histoire juive, il est plus difficile de motiver une sortie. Il y a plein de raisons et plein de difficultés aujourd'hui en plus qui se cumulent pour expliquer la difficulté des sorties. Si une approche des cultures juives est proposée, eh bien ce sera plutôt au musée de la résistance et de la déportation. Donc la question du fait religieux en particulier, comme vous le soulevez, je ne suis pas sûr que ce soit même dans une construction de cette représentation à l'école, ou en tout cas, nous, on le ressent pas comme ça. Enfin, je me trompe peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a quelques bribes de...
Quand j'étais enseignée, il y avait toute l'année de 5e ou presque qui était consacrée à l'islam. Et les élèves, ils savaient les 5, je sais pas quoi, piliers de l'islam. Bon, alors ça, ils savaient. Sur le christianisme, alors là, vraiment pas grand-chose. Fils de Dieu, oui, c'est ça, c'est quoi. Enfin bon, c'est vraiment incroyable, alors qu'on est quand même dans un pays chrétien, de tradition, d'origine et tout. L'ignorance est très très grande. Alors sur les juifs, c'est que l'aspect négatif, comme vous dites, c'est-à-dire l'antisémitisme sous toutes sortes de formes. Est-ce que vous pensez que les enseignants qui amènent leurs élèves changent un peu leur point de vue quand ils voient d'autres choses? Parce que dans l'exposition, il y a plein de choses, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec tout ça. L'antisémitisme, bon, en général, vous en parlez pas trop. Bon, c'est une toute petite partie, et puis ils peuvent aller au musée de la Résistance, effectivement. Mais c'est vrai que c'est assez absurde de ne parler que de cet aspect négatif. Enfin, l'affaire Dreyfus, c'est très bien, mais comme moi j'ai connu des situations où les professeurs
pour animer leur classe probablement, faisaient voter pour ou contre Dreyfus. Enfin bon, il y a des choses comme ça. Il y a des anomalies au niveau de la formation des enseignants qui sont assez flagrantes. Hein. Et sur la religion elle-même, alors là, vraiment, qu'est-ce que c'est que un sacrement et tout ça? Rien. C'est ça que j'ai constaté, moi. En principe, l'exposition est faite pour donner une autre perspective. Donc j'imagine que les enseignants qui voient ça, ils se disent, tiens, oui, on pourrait enseigner autre chose.
Oui, je reprends la parole, mais je crois qu'effectivement, l'exposition offre cette autre perspective, hein, ce point de vue non victimaire, pardon. Et effectivement, une présentation de la diversité des cultures juives. Et après, moi, juste sur la question du fait religieux qui peut être enseigné à l'école, je sais par ailleurs que pour les enseignants, alors parfois ils ne sont pas formés, et parfois quand ils s'y attaquent, ils se retrouvent dans des situations parfois compliquées avec les familles. Donc effectivement, même ceux qui sont en mesure de le faire préfèrent ne pas le faire pour éviter d'avoir trop de problèmes. Voilà, je vais clôturer. Et concernant toutes les religions, hein, qu'on soit bien clair. Je vous remercie, je remercie nos deux intervenants. Et aujourd'hui, on s'est effectivement pas mal posé des questions sur les questions, en fait, sur le fait que effectivement, le judaïsme a pour caractéristique de soulever un certain nombre de questions. D'ailleurs, il y a une histoire drôle qui est évoquée en fin d'exposition, hein, où un juif interroge un non-juif interroge un autre juif et lui demande « Pourquoi vous, les juifs, lorsqu'on vous pose une question, vous répondez par une question ?» Et le juif répond « Eh bien, pourquoi pas ?» Donc effectivement, l'exposition se termine justement par une série d'histoires drôles et sur la question de l'humour juif. Et précisément, ce sera le sujet de la prochaine conversation radiophonique qui aura lieu le 23 avril à 18h30, où nous serons en compagnie de Constance Lagrange, qui est autrice du roman graphique « On peut rire de tout, sauf de ma mère ».